sens, guérison, obéissance et salut. J'aurais dû mettre obéissance, guérison, salut ou salut. Non, en fait, les trois sont liés dans ce que je vais vous dire ce matin. On arrive au dernier dimanche, parce que je pense que la semaine prochaine, Pierre Ellery... Ah oui, là, c'est le moment recrutement. Le recrutement des jeunes pour servir. Et ils vont ressortir de la petite salle avec une mission. Vous savez, comme Mission Impossible. C'est votre mission si vous l'acceptez. Voilà. J'aurais voulu. Ce que je voulais vous dire, en fait, que je pense que ces trois choses se lient les unes avec les autres en réalité. Puis ouais, ça fait vite quand les enfants s'en vont. Faites plus d'enfants. Et je vais vous parler de la guérison de Naaman le Syrien. Parce que j'étais profondément touché par l'histoire de cet homme, en réalité, qui, je trouve qu'il me ressemble, à part que je ne suis pas général syrien, moi, mais je trouve qu'il me ressemble en tout cas dans la manière d'être, mais en réalité, il vous ressemble aussi. Qui connaît l'histoire de Naaman le Syrien? Vous l'avez déjà lu, cette histoire? Ouais. Bon, pour la plupart des gens le connaissent. Ouais. C'est dans 2 Rois 1 à 19, 2 Rois 5 1 à 19. Vous pourrez le lire cette semaine. Tu peux m'aider, chérie, s'il te plaît, parce que elle a comme un. Il faut la. Voilà. Alors, on va le lire, mais j'ai paraphrasé et j'ai coupé des morceaux. Vous me pardonnerez pour les puristes, pour éviter que ce soit trop long. D'accord? On lit ensemble? Alors, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla le dire à son maître, et le roi de Syrie envoya avec vêtements, argent, une lettre pour le roi d'Israël. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir, pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira avec moi, il se présentera lui-même, il invoquera son Dieu. Il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et il partait avec fureur. Mais ses serviteurs lui dirent, « Mon père, si le prophète, tu... demander quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, et selon la parole d'Élisée, sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Quelle belle histoire! Oh, moi, ça me donne envie, des fois, je suis. Ah non. Oui, je continue. Naaman et sa suite retournèrent vers Élisée. Naaman lui dit, « Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Et Élisée refusa. Naaman dit, « Je prie l'Éternel de me pardonner. Quand mon maître entre dans la maison du Dieu Ramon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi. » Que Dieu me pardonne lorsque j'y retournerai avec mon roi. Élisée lui dit, va en paix. Et le mot ici, paix, c'est shalom, c'est plénitude. C'est la plénitude de la paix dans le cœur de cet homme. Bon, mon portable, il commence déjà à se mettre en veille, ça ne va pas aller. Cette guérison, pour moi, elle est extraordinaire parce qu'elle touche quelqu'un qui n'était pas d'Israël. Et elle touche un homme qui a vaincu Israël. Il est écrit dans le texte que Dieu a utilisé cet homme pour vaincre Israël. Parce qu'Israël avait besoin d'une petite fessée, si vous voulez, il était pas sage. Donc de temps en temps, on a besoin d'avoir une petite fessée. Et Dieu l'a fait, là. Mais ce que j'aime, moi, dans cette histoire, c'est la manière dont Dieu a conduit cet homme à une guérison, mais qui n'était pas simplement une guérison physique, mais une guérison intérieure, une guérison puissante. Et le problème de cet homme, c'est qu'il était lépreux. Hein, il est dit que cet homme était lépreux. Et vous savez, la lèpre, dans la Bible, c'est le péché. Ça représente le péché. Et ça représente le péché qui nous ronge. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui est atteint de la lèpre. Mais la chair se fait manger et puis au fur et à mesure, les gens n'ont plus de doigts. Et c'est une image quand même qui est assez surprenante et assez parlante parce qu'elle nous montre que le péché en réalité ronge la vie des gens. Le problème des gens, ce n'est pas leur maladie physique en premier lieu. Le problème des gens, c'est le péché dans leur vie. C'est notre péché qui nous pose problème. Et pourtant, moi, quand je regarde cet homme, je me dis, cet homme est quand même comblé. Il a une femme, il a une maison, il est reconnu à la cour du roi. Il est écrit de lui, d'ailleurs, dans ce texte, qu'il est vaillant et qu'il est fort et qu'il a tous les honneurs du roi. Puisque lorsqu'il va voir le roi lui dit « Vas-y mon ami, je vais même envoyer une lettre de recommandation au roi d'Israël. » Et pourtant, malgré les apparences, vous vous rendez compte que cet homme, il a un problème de fond. Et vous savez, on peut tous, ici, se donner des apparences aux autres. Mais Dieu connaît notre problème de fond. Et la première des choses que Dieu veut faire, c'est régler notre problème de fond. Vous savez, je crois que le péché ronge les gens. Je me suis déjà rendu compte qu'en période de colère, que j'étais rongé par la colère. Pas vous ? Je me suis aperçu dans ma vie que lorsque j'étais rongé par le désespoir, le désespoir me rongeait. Lorsque j'ai eu des périodes de doute, le doute me rongeait. Et tous autant que nous sommes, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et devant Dieu, nous pourrons dire qu'il y a quelque chose qui nous ronge à l'intérieur. Vous savez, lorsque quelqu'un est lié par l'adultère, et je le vois, et je l'ai vu, pour l'avoir connu avant de connaître le Seigneur, pour l'avoir vu dans la vie de couple, j'ai vu des couples où quelqu'un commettait l'adultère, je peux vous dire que c'était comme quelque chose qui rongeait la personne et qui l'empêchait même d'avoir conscience des réalités des choses. On pourrait tous le témoigner. Et il en est ainsi pour ceux qui pêchent, ils sont rongés. Vous savez, Naaman avait beau avoir de l'argent, l'honneur, la réussite. Il était dans le trou, si je puis dire. C'est l'expression qu'on utilise. Il était désespéré, cet homme. Il y avait quelque chose qui lui manquait. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas à l'apparence que vous voulez donner. Et ne vous fiez pas aux apparences des hommes. Il y a des personnes parfois qui sont tellement... Je me souviens que lorsque j'ai rencontré un chrétien évangélique pour la première fois sur le parking du travail de Maryse qui m'annonçait l'évangile, je lui ai donné l'image d'un homme qui était parfait, d'un homme qui n'avait pas besoin de Dieu. J'ai voulu transmettre quelque chose. Mais Dieu est allé bien au-delà de mes apparences. À cet homme avec qui j'avais dit 3 mois avant, tu sais, je n'ai pas besoin de Dieu. 3 mois plus tard, j'ai dit à mon épouse, appelle ton collègue. Je veux rencontrer le Seigneur. La Bible nous dit de ne pas jouer avec le péché et de ne pas nous lier avec le péché. C'est rigolo ? Bah non, c'est rigolo, enfin, c'est souvent une expression, c'est pas vraiment rigolo ce que je vais vous dire. Pourquoi je dis c'est rigolo ? Mais Maryse et moi, on a accompagné parfois des personnes atteintes d'un cancer. Et Aldora pourra en parler, il y a une femme qui s'appelle Béa, qui a quelque temps maintenant est décédée d'un cancer. On a vu avec quelle force, quelle hargne, elle avait lutté contre son cancer. Et je peux vous dire que face au courage de cette femme, face à la maladie, à la détermination qu'elle avait, Maryse et moi, on sortait à chaque fois, on était scotchés. Enfin, on se dit, waouh, quelle force elle met pour battre, pour combattre cette maladie. Et parfois, j'ai vu des chrétiens, et je me suis vu aussi, en étant honnête avec vous et avec moi-même, je suis vu parfois dire au péché, vas-y, tu as gagné, ronge-moi jusqu'à la mort. J'ai abdiqué face au péché. Et je me suis dit, pourtant, les deux représentent le cancer. Et pourquoi je n'arrive pas à me battre contre ça et à éradiquer ça en moi? Vous savez, j'ai pris la décision, en tout cas, pour ma vie, de refuser toute forme d'esclavage. Combien le péché rend les gens esclaves. Et cette génération a besoin d'entendre un message clair, vous savez, sur le péché. Le péché ronge, le péché ruine, le péché conduit à la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, Naaman avait besoin de guérison physique. Il avait besoin d'être guéri de sa lèpre, mais il avait besoin d'être guéri de son péché. Le prophète Jérémie dit, et regardez, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Lorsque j'étais petit, j'avais des taches de rousseur. Maintenant, j'ai des taches de vieillesse. Chacun son truc. Mais j'avais des taches de rousseur. Et les gens, pour les plus anciens, je ne sais pas si vous avez entendu ça, on appelait du brin de Judas. Ah, il y a une vieille parmi nous. Et moi, je n'aimais pas ce mot. Et je dis ça à ma mère, parce que ma mère, elle avait des taches de rousseur partout, sur les bras, etc. Alors que je trouve ça très joli maintenant. Mais à l'époque, je voulais effacer mes taches de rousseur. Et donc, je cherchais un moyen. Alors, vous savez ce que je faisais? Parce que je me disais, les taches sont foncées. Du coup, si je vais au soleil, eh ben, les taches vont se disparaître avec le... Donc je me mettais au soleil, vous voyez, et je prenais des coups de soleil, mais les taches de rousseur sortaient encore plus. Et je cherchais par mes propres moyens à effacer ces taches. Je me disais, je vais réussir à les enlever, ces taches. Et de la même manière que le petit Bruno n'a jamais réussi à effacer ses taches de rousseur, si ce n'est qu'à force, les taches de vieillesse ont remplacé les taches de rousseur. Mais néanmoins, je n'ai jamais réussi à m'en sortir jusqu'au 21 avril 1989. Là, il y a Nadège qui est en train de compter, ça fait combien de temps là? Vous voulez que je vous dise? Vous aurez beau frotter votre peau, vous n'y arriverez pas. Et vous avez besoin de quelque chose de plus puissant que vous pour effacer votre péché. Vous avez besoin de la puissance du sang de Jésus. Il est écrit dans la Bible que si je crois que le Christ est mort et qu'il est, dont son sang a été versé, il est écrit que ce sang me rend blanc comme la neige. Je n'ai plus de tache de rousseur avec le Seigneur. Mes amis, Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a autre chose que je voudrais vous dire maintenant, c'est que Dieu utilise pour la guérison qui il veut, quand il veut et comme il veut. Moi, je voudrais vous parler de cette petite fille. C'est quand même intéressant de voir comment Dieu peut utiliser une petite fille pour aller guérir un général, un chef d'état-major, on peut dire. C'est extraordinaire. Cette petite fille se trouve par hasard. Le hasard, c'est quand Dieu se déplace incognito, en fait. C'est un frère qui dit ça. C'est vrai? Ah bon. Là, cette petite fille, elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Regardez ce qu'elle dit, ce qu'elle proclame. Elle ne dit pas « J'ai peut-être une solution. » Elle ne dit pas « Si mon maître était à côté, aller voir ce prophète, il serait peut-être guéri. » Cette phrase, elle dit « Certainement, mon maître sera guéri s'il va voir le prophète. » Waouh ! Moi, ça m'interpelle. Hein. Vous savez que je voulais dire un truc ? Cette petite, elle est convaincue. Et parce qu'elle est convaincue, elle devient convaincante. Ce sont les convaincus qui convainquent les autres. Le problème, c'est que nous sommes tellement timides, nous remettons tout en question à cause de notre intelligence, que nous finissons par croire que c'est le peut-être qui se fera. Vous comprenez ça ? Si tu veux convaincre, il faut que tu sois toi-même convaincu. Et une des raisons pour lesquelles Dieu a voulu qu'on soit enseigné pendant un mois sur la guérison, c'est d'abord nous convaincre que Dieu veut guérir les cœurs et les corps. Moi, je rends gloire à Dieu qu'il veuille utiliser des petits-enfants, les petits garçons, les petites filles, dans les maisons et dans l'église. Tout à l'heure, il y a une petite fille qui est venue ici me faire un câlin. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça m'a fait du bien. Parce qu'elle sait que j'ai besoin de câlins en ce moment. Maryse est distante. Non, je plaisante. Mais elle est venue et j'ai senti l'affection de cette petite, là je plaisantais, hein, je n'ai pas envie d'avoir des histoires avec Maryse en rentrant, mais j'ai senti tellement d'affection de cette petite fille que je sentais de l'amour. Waouh, j'étais touché, vraiment, je peux vous le dire. Vous savez, la petite fille, dans cette histoire de Naaman, elle a quelque chose que nous n'avons plus ou que nous n'avons peut-être jamais eu. Elle a de l'audace. Elle a du courage qui nous manque pour apporter la guérison. Et tout à l'heure, lorsque je disais, je suis convaincu que Dieu veut rebâtir quelque chose. Et elle va, moi ce que j'aime aussi chez cette petite fille, c'est qu'elle va participer à la guérison, attendez bien ceci, de celui qui l'a ramenée en captivité. C'est fort. Elle est capable de bénir celui qui a mis des chaînes physiques dans sa vie. C'est une bonne nouvelle qui est annoncée aux ennemis du peuple de Dieu, aux oppresseurs. Comprenez-vous le cœur de cette petite fille et faites la comparaison avec votre propre cœur. Et vous verrez que c'est facile de dire « je bénis mes amis, ceux qui... » Et c'est beaucoup plus difficile de bénir ceux qui ne me font pas du bien, n'est-ce pas ? Ou alors je suis peut-être le seul. J'annonce, elle a dit, j'annonce la guérison des péchés et des maladies par la puissance. Elle prophétise ça en réalité sur l'Église, ce que sera l'Église. Par la puissance de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Je vous racontais une histoire qui date d'il y a 10 ans à peu près, 9 ans. Il y a 10 ans, je suis allé en Thaïlande avec quelques-uns d'ici qui se souviennent de ce qu'ils ont mangé. Et je me souviens qu'en descendant de l'aéroport, je me suis blessé au dos, mais vraiment bien. Hein. Ce n'était pas un petit lumbago, c'était vraiment quelque chose de fort. À tel point que le lendemain, nous allions dans un dropping center. En fait, c'est un endroit où un couple de missionnaires thaïlandais reçoit au nord de la frontière la Birmanie. Et ils vont chercher des petits-enfants, ils récupèrent des petits-enfants qui se retrouvent orphelins parce que les parents ont fait du trafic de stupes. Et ils se retrouvent en prison et ces enfants sont démunis. Alors plutôt que de les laisser dans la rue, ils les scolarisent, ils les nourrissent, ils les hébergent, ils font extraordinaire. Un couple. Vraiment, j'étais touché par ça. Nous arrivons. J'arrive. Bruno arrive. Tel le petit vieux, vous voyez. Courbé comme ça. Cette petite fille, de l'âge de ma petite fille Alix, 8-9 ans, pas plus. Elle vient me voir. La petite fille de Naaman, vous voyez. Pareil. Elle me parle en thaïlandais que je comprends forcément aisément, vous comprendrez. Et elle me montre ses mains, dit « Je veux prier pour toi ». Je suis scotché, incrédule, hein, parce que je peux vous dire que ça, j'y croyais pas. Mais par respect de cette petite fille, pour cette petite fille, je me suis mis à genoux. Elle pose les mains. Elle prie en thaïlandais. Instantanément guéri. Le mérite vient à qui ? À Bruno qui s'est agenouillé ? À Bruno qui était incrédule ? Ou à cette petite fille remplie d'audace et de foi ? Qui, elle aurait pu dire, comme la petite fille de Naaman, « Pourquoi mes parents sont en prison ? Pourquoi je me retrouve orpheline ? Et pourquoi je ne verrai pas ma mère pendant 20 ans en liberté, même si j'ai le droit de visite ?» Elle aurait pu avoir toutes les raisons pour ne pas prier pour Bruno ce jour-là. Et pourtant, elle a prié, j'étais guéri. Est-ce que vous voyez dans votre cœur ce qui nous manque encore ? La simplicité, l'audace, l'amour d'une petite fille. Je loue le Seigneur, vraiment. Je rends gloire à Dieu que ces enfants qui sont là-bas seront utilisés pour la guérison des nations. Et on ne peut pas dissocier de l'Église nos petits-enfants. Et on devrait passer davantage de temps avec eux. Parce qu'on a beaucoup encore à apprendre de l'attitude de cœur de nos petits-enfants. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, dit le Seigneur. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, vous savez ce que ça veut dire, Baca ? Non ? Que ça veut dire, JR ? Baca, la vallée de Baca. La vallée des larmes, la vallée de la souffrance. Ils trouvent leur cœur, dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et de la pluie, la couvre aussi de bénédictions. Écoutez ceci, leur force augmente et ils se présentent devant Dieu à Sion. Moi, j'ai pris la décision, toute simple, de me dire, je ne vais pas attendre d'être en forme, que tout va bien, que je me sens libre, pour prier et pour annoncer la guérison aux nations. Je ne vais pas attendre que je sois un homme parfait. Et vous ne devez pas attendre cela. Je vais vous expliquer pourquoi on a parlé cette semaine lors de notre visio sur la voie avec notre groupe de mentorat. Le but de Dieu, c'est d'utiliser chacun d'entre nous. Et souvent, vous croyez que parce qu'une personne prêche ou qu'une personne est bien habillée, ne vous fiez pas aux apparences. Les gens qui se présentent devant vous ont les mêmes travers que vous, ils ont les mêmes difficultés que vous, ils ont les mêmes périodes de doute que vous. Simplement, comprenez que c'est Dieu, que Dieu veut vous utiliser, vous, pour prier pour les autres et guérir les autres. Le chemin de l'obéissance maintenant. Si on regarde à Naaman, regardez ce qu'il dit. Naaman va avec ses chevaux et son char, il s'arrête à la porte d'Élisée. Élisée, il est un peu gonflé, Élisée, soit dit en passant. C'est quand même un mec. Naaman, c'est déjà le gars très reconnu. Hein. Élisée reste dans son fauteuil. Il lit son journal. Il appelle son serviteur. Il dit : tu vas lui dire qu'il aille se laver. 7 fois dans le journal, il sera guéri. C'est fou quand même. Mais pourquoi Dieu parle-t-il comme ça à Naaman ? Ben vous allez comprendre pourquoi. Naaman, forcément, c'est un homme fort, vaillant, reconnu. Tout lui est ouvert. Il s'en va et il dit : je pensais qu'il serait sorti vers moi. Je pensais qu'Élisée, qui est tellement reconnu en Israël, vienne vers moi, qu'il se présenterait et qu'il invoquerait son Dieu, qu'il agiterait sa main sur la place et qu'il guérirait le lépreux que je suis. Et il ajoute : moi, en Syrie, j'ai 2 fleuves dans lesquels je peux me baigner, dont l'eau est claire comme l'eau de roche, et je peux être guéri là-bas. Et donc, dans un premier temps, que fait Naaman ? Il se retourne, non mais il me prend pour un rigolo celui-là. Je suis Naaman. Vous voulez que je vous dise, ce que vous croyez être peut être un frein à votre guérison. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Donc il se retourne avec fureur et puis merci Seigneur parce qu'il y a toujours des personnes bienveillantes à côté de lui qui vont lui dire hey, quand même. Si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu lui aurais dit, mais tu rigoles ou quoi ? Tandis que là, ils lui disent, quand même, c'est simple ce qu'il te demande. Il te demande juste d'aller dans le Jourdain et de te tremper 7 fois dans le Jourdain. Pourquoi tu ne le fais pas ? Donc, il prend conscience de quelque chose. Vous savez, parfois, Dieu nous permet des choses pour guérir autre chose. Dieu parfois permet des maladies, des problèmes physiques, parce qu'il veut nous amener à être guéris d'autres choses. Le problème, c'est qu'on voit la difficulté présente et on est un peu comme Naaman. Mais pourquoi Dieu, tu me permets ça ? Et pourquoi je ne suis pas guéri ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et c'est là où on s'aperçoit qu'on a besoin des uns et des autres dans le corps du Christ pour nous faire prendre conscience que parfois notre comportement nous pousse à la désobéissance. Montrez-moi, mes frères et mes sœurs, un chrétien qui vit seul et je vous dirai que c'est un chrétien qui est vaincu. Il n'y a pas d'alternative. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Nous avons besoin des uns et des autres. C'est ce qu'il faut nous permettre en tout cas d'être repris dans nos comportements, dans nos attitudes. Un jour, Jésus rencontre des lépreux, vous connaissez l'histoire des 10 lépreux, hein, dans Luc chapitre 17, et ils ont besoin d'être guéris, tiens, comme Naaman. Et puis, Jésus leur dit, il ne leur dit pas, attends, je vais te faire une imposition des mains, il ne leur dit pas, non, allez vous montrer au sacrificateur, au prêtre. Et il est écrit, pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. C'est incroyable. Ça veut dire que la guérison s'obtient aussi par l'obéissance. Je voudrais vraiment que vous reteniez ça. La guérison s'obtient aussi par l'obéissance. Et c'est exactement ce qu'Élisée a fait parce qu'il a dit, Dieu lui a dit, Naaman sera guéri parce que je vais lui demander d'obéir. L'autre question que nous pose cette histoire, c'est est-ce que je suis prêt à changer mes plans lorsque Dieu me le demande ? C'est une question intéressante, ça. Voulez-vous que je vous dise quelque chose? Des personnes seront guéries dans leur cœur et dans leur corps lorsqu'elles accepteront le plan de Dieu pour leur vie et pas le leur. Et des personnes parfois ne guérissent pas parce qu'elles n'ont pas encore accepté que Dieu puisse faire autrement que leur plan établi à l'avance. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Et combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Ils lui disent, et Dieu merci, Naaman entend ça. Il entend cette parole. Et j'étais triste. À plusieurs reprises, j'ai averti des personnes, moi, personnellement. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Fais attention. J'ai averti des gens. Et les gens finissent par aller se tremper dans leur propre fleuve, dans le fleuve de leur appartenance, de ce qu'ils ont décidé. Mais est-ce qu'on pourrait enfin apprendre à écouter les conseils des autres, des conseils de ceux qui ont reçu une autorité, une onction? Est-ce qu'on peut l'entendre à un moment donné, ça? Et puis le dernier point, c'est une guérison qui est bien plus que physique. L'orgueil est-il un obstacle à notre guérison? Dieu voulait guérir Naaman de son véritable problème, et son véritable problème, ce n'était pas la lèpre, c'était le péché, et c'était le péché d'orgueil. Un orgueil qui nous empêche d'entrer dans la plénitude de Christ. On a vu cette semaine comment que Dieu veut nous donner son shalom, la plénitude de sa paix. Je peux vous dire que l'orgueil est un obstacle au shalom de Dieu. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, j'ai réussi à le dire, mais moi je l'ai vécu. J'en parle en connaissance de cause. Un orgueil qui nous empêche d'entrer dans cette plénitude en Christ. Et Dieu, vous savez, il est bien plus préoccupé que de ce qui se passe dans mon cœur, dans mon caractère, parce que ça va déterminer mon éternité, que mon physique. L'enjeu de Dieu pour toi, et avant tout, c'est ton salut, ton éternité. Parfois, tu peux demander une guérison physique, et je crois, je suis déterminé, là je me mets à la place de la petite fille, je suis convaincu que Dieu veut guérir physiquement, mais je suis encore plus convaincu que Dieu veut vous préparer, me préparer à l'éternité avec lui. Et c'est ce qu'a fait Élisée. Élisée, j'aime beaucoup cet homme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a poussé Naaman à s'humilier devant le Père. Il n'a pas agi d'une manière émotionnelle. Il a vu pourtant le désespoir de cet homme, mais il lui a dit « Humilie-toi, je ne céderai pas jusqu'à ce... » Parce qu'on peut parfois, vous savez, réagir d'une manière émotionnelle, hein, un élan de compassion. Non. Élisée, ce n'est pas à laisser aller au piège. Va te laver cette fois dans le Jourdain. Il envoie son serviteur pour lui dire « Tu sais, Naaman, tu n'es pas si important que cela. Tu n'es pas si beau que ça. Tu n'es pas si intelligent que ça. Tu n'es pas si fort que cela. » Tu n'es pas à Damas ici, Naaman. Tu es là où se tient le royaume de Dieu. Et c'était le problème de Naaman. Et vous voulez que je vous dise un truc? L'orgueil, c'est notre problème. L'orgueil, c'est le poison de nos relations. L'orgueil, c'est le poison qui empêche de construire une vie de couple, une vie de famille. C'est une vie d'église, un projet d'église. La première chose que nous devons faire en lisant cette histoire, c'est d'être interpellés par rapport à notre orgueil et de venir nous humilier devant le Père. Conclusion. J'en ai fini. Ça va? Moi, c'est un extraordinaire parcours de vie. C'est extraordinaire, moi. Je suis émerveillé de par cette histoire, je vous assure. Hein. Et je trouve qu'on devrait prêcher plus souvent sur la guérison de Naaman. C'est un parcours de guérison physique, certes, intérieure, et un parcours vers l'éternité. Un parcours de préparation vers le ciel. Voici toutefois, dit-il, ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur quand mon maître entre dans la maison de Rimmon, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi. Veuille l'Éternel me pardonner lorsque je fais cela avec mon roi. Regardez ce qu'a provoqué cette guérison. Cette guérison, ce n'est pas juste je vais bien et je porte de nouveau jouer au tennis lorsque je serai guéri de mon coude. Ce n'est pas juste uniquement je vais bien, je n'ai plus de taches de rousseur et maintenant je serai un beau gosse. Non, ce n'est pas ça. C'est le résultat de cette guérison. C'est une prise de conscience de la sainteté de Dieu et de l'ordre divin. Cette histoire me montre une chose, c'est qu'Élisée lui dit, il conclut l'histoire par « Va en shalom ». Va en paix. Le résultat de la guérison, c'est le shalom de Dieu. C'est la plénitude de Dieu en nous. C'est bien plus qu'une guérison physique, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est Jésus qui prend toute sa place dans ma vie. Et c'est ce que Dieu veut. Cette histoire me raconte l'incapacité d'un homme qui est bien selon les apparences. Et vous êtes tous bien selon les apparences. Nous sommes tous bien selon les apparences. À se guérir. L'incapacité à se guérir soi-même et se sauver soi-même. Une petite fille audacieuse, convaincante, parce qu'elle est convaincue de la puissance de Dieu, annonçant le royaume de Dieu. Et enfin, un chemin d'humilité choisi. Certes, difficilement, c'est pas facile pour Naaman d'avoir fait ce qu'il a fait. C'est jamais facile de s'humilier, mais qui a conduit cet homme jusqu'à la purification de son corps, de son âme et de son esprit. C'est la guérison que Dieu veut accorder à chacun de ses enfants. Là, il l'a fait par l'intermédiaire d'Élisée. Mais il veut le faire par l'intermédiaire de vous tous. Apportez cette guérison, proclamez ce message de guérison parmi votre entourage, parmi votre famille, parmi les nations, parce que c'est ce que Dieu veut. Et j'ai fini. Et il y a eu un amen de d'accord.